Suzanne, je la connais depuis 1971. On n'était pas encore mariés, hein, chérie. On connaissait Suzanne. Elle vient de Châteaudun.
C'est une beau soin.
Merci, Suzanne. Dieu te bénisse.
Chers frères et sœurs et amis, je veux vous donner le témoignage que ce que Jésus a fait dans ma vie. Parce que j'étais comme beaucoup de monde, on était baptisés, la communion, mariés, etc. Mais enfin, pratiquait très peu. En plus, pour arranger toute chose, j'ai divorcé. Alors, inutile de vous dire qu'à l'époque, c'était en 49, que c'était bien vu par l'Église. Hein. Rejeté, alors noir. Enfin, passons. Et alors, j'ai eu une vie assez compliquée, comme beaucoup. Entre autres, mariée à 16 ans et demi, parce que, évidemment, j'attendais mon fils. 20 ans, j'ai eu ma fille. 22 ans, le mari se barrait. Et bien, si vous n'avez pas de plomb dans la cervelle, je vous dis que ça vous en donne. Hein. Parce qu'après, il faut se débattre toute seule. Avec mes deux enfants, enfin, j'étais secondée par ma maman. J'ai travaillé. Je faisais la garde barrière. Je remplaçais. Ils avaient un jour de congé par semaine, les gardes barrières. Je faisais des passages à niveau au château d'Incloix. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai voulu mettre les enfants en pension, mais mon salaire n'était pas suffisant. Alors j'ai dit, je vais me mettre à l'usine, tout le monde rentrait à l'époque. J'y vais avec une camarade, elle rentrait, au bout de 8 jours, elle rentrait. Moi, je ne rentrais toujours pas. Et puis j'avais mon beau-frère et mon frère qui travaillaient à l'usine, et il s'est avéré que c'était mon voisin qui m'empêchait de rentrer. Pourquoi? On était un tout petit à Maud-Douy, et alors il y avait Fernand et Paulette, ses filles avaient travaillé à Paris, elles étaient habituées à boire. Alors le marché à Châteaudun, c'est le jeudi, je vais avec eux au marché. J'avais pas fait la moitié de ce qu'ils avaient fait des cafés, j'étais ronde comme un toupin. Deuxième jeudi, pareil. Alors là, je me suis fâchée. J'ai dit, les filles, j'y retourne plus. Alors avec une, ça a été, mais avec l'autre, on s'est fâchée. Alors celle-ci, c'est son mari qui était chef d'équipe à la Postra, qui m'empêchait de rentrer à l'usine. Alors, quand j'ai su que c'était lui, j'ai dit à Fernand, il paraît que c'est Joseph qui m'empêche de rentrer à l'usine. Eh bien, elle dit, je vais demander à Paulette. Elle dit, oui, elle n'a qu'à rentrer. Elle rentrera, mais elle n'a qu'à me parler. Mais j'avais une tête de cochon, j'ai dit non, je ne lui parlerai pas. Ça ne solutionnait pas mon problème. Alors, ma sœur qui gardait les enfants, une fille qui travaille à l'hôpital, elle me dit, pourquoi tu ne te fais pas inscrire à l'hôpital? Je n'y avais nullement pensé. Je n'avais pas de base pour partir à l'hôpital, mais à ce moment-là, on rentrait comme ça. Alors, je suis rentrée au mois de juillet. Je finis ce passage à niveau à Cloix le 13 au soir à 9h après le train et je défile à l'hôpital le lendemain matin au 14 juillet à 7h30. Je n'ai pas perdu de temps, il n'y a pas de chômage. Hein. Et alors là, j'ai continué, j'ai élevé tout ça. Et après, j'ai connu le Seigneur, j'ai eu bien des problèmes. Enfin, quand on vient en arrière, je vois que le Seigneur, déjà là, me gardait dans tous ces problèmes-là. Il solutionnait des problèmes difficiles. Quand on vient en arrière, on voit la main de Dieu d'autrefois. Alors, j'ai connu le Seigneur par une sœur qui travaillait avec moi. On travaillait la nuit. Et puis, alors, je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Elle priait, moi, je ne savais pas. Et à ce moment-là, j'avais des gros problèmes. Et alors, au travail, je faisais toujours le gugut. Alors, les filles, elles disaient, Suzanne n'a jamais de problème, elle rigole toujours. C'est là que j'en ai le plus, que je faisais plus le clown pour pas qu'ils sachent. Et puis, alors, un jour, j'étais bien avec mon problème. J'étais bien en train de pleurer chez moi, ça frappe. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient m'embêter. Cette fille-là elle n'est jamais chez moi. Le Seigneur y avait mis à cœur, il fallait qu'elle vienne me voir. Alors elle me trouve en train de pleurer, mon petit orgueil bien blessé. Moi qui cachais tout, c'était bien, j'avais l'air bien lune. Alors elle me dit avec beaucoup d'amour, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, tu peux rien faire. Puis en plus de ça, j'avais des problèmes cardiaques vers 3-4 heures du matin, quand la fatigue se faisait sentir. J'avais mal au cœur. Bon. J'ai dit, ben, j'ai qu'à claquer, on n'en parle plus. Elle me dit, comment c'est toi qui as montré le moral à un régiment de malades? Mais je dis, pas question de malade, question de moi, plus le problème qu'il y a, moi j'ai envie de mourir. Alors elle me dit, comme ça, tu crois en Dieu? Je dis, oui, mais pas dans les hommes. Alors, j'avais tellement été refoulée avec mon divorce. Bon. Elle me dit, on va prier. Elle m'a redit, on va dans le Loir avec moi. Elle dit, c'était pareil. Moi, je connaissais ce qu'on avait appris à l'église, quoi. Alors, elle s'est mise à prier, s'adresser directement à Dieu, mon problème, et tout. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Enfin, j'ai senti un certain soulagement. Puis, elle m'a eu au virage parce qu'on avait le même planning, et à ce moment-là, il y avait des réunions à Orléans, le dimanche soir. Alors, le dimanche, on ne travaillait pas l'une ni l'une autre. Alors, elle me dit, tu viens avec nous à Orléans? Ben, j'ai dit, si tu veux. Alors, je suis arrivée, j'ai entendu la prière, j'ai entendu les chants. le message, les témoignages de guérison. J'étais imposition des mains. J'y croyais pas du tout. Ça m'a rien fait. Deuxième fois, pareil. Alors, la troisième fois, j'ai commencé à discuter avec le Seigneur. J'ai dit, si c'est vrai qu'ils ont été guéris, eh bien, moi, je vais être guéri. Et le Seigneur, vraiment, effectivement, il m'a guéri. Et puis, alors, après, j'ai progressé et tout. Et alors, j'ai connu Camélia, la mère de Violette, alors qui était ma mère spirituelle. Hein, elle m'a beaucoup enseigné. Et alors, j'ai fait un camp de jeûne. J'ai pris le baptême au mois de janvier. Et puis, j'ai fait le camp de jeûne au mois d'août. Et alors là, j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit. Je travaillais la tâche matérielle de la lingerie. Puis le midi, on allait le soir aider la cuisine avec les jeunes. Il y en avait 150. Et alors, je dis à la collègue, moi, je veux bien travailler, mais moi, je suis habillée de travailler la nuit. Il faut que je dorme une heure parce que l'après-midi, parce qu'après, je n'irai pas de rendement. Alors, le lendemain, on va sous la tente. Et il y avait 5 gamines qui étaient là, qui étaient en train de prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'avais lu, mais je ne connaissais pas cette manifestation. Au bout d'une demi-heure, il y en a eu une, bon. Et le lendemain matin, les jeunes étaient sous la tente, et puis vers 11h, ils descendaient. Et puis, il était 11h30, ils étaient juste sous la tente. Alors, la copine, elle me dit, bah, puisqu'ils ne viennent pas, on va sous la tente. Et j'arrive sous la tente, et il y a une des gamines qui me dit, Suzanne, tu veux te baptiser du Saint-Esprit? Alors, mon jugement était le second. La gamine, elle a 15 ans. Au bout d'une demi-heure, on a prié. Moi, il y a bien pour 2 ans que toutes les bêtises que j'ai faites. C'était pour 5 minutes sous la tente que j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et puis j'ai fait plein d'expériences. La dernière que j'ai fait, c'est que en 2002, j'ai fait un AVC. C'est un accident vasculaire cérébral. Paralysé tout le côté gauche. Et puis la voix. Et alors ça m'est arrivé en Bretagne, chez une amie. Je vais partir le lendemain. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai des gestes saccadés, incontrôlés, la jambe et le bras comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça m'a duré. Je ne sais pas si j'ai une perte de connaissance, j'en sais rien. Le matin, j'étais fatiguée. Et la camarade, elle me dit, t'as l'air fatiguée. Oh, j'ai mal dormi, mais je ne me rendais même pas compte de ce que c'était. Alors, elle me raccompagne avec ma voiture à Châteaubriand. Et puis là, elle part avec son mari. Et moi, je prends ma voiture. Et quand j'ai pris ma voiture pour changer de vitesse, je dis, il m'est passé à l'esprit, Isabelle, elle m'a cassé ma boîte de vitesse. Je n'ai pas réalisé que c'est pour moi qui ne pouvais pas débrayer à fond. Et j'ai fait 250 km comme ça. Tout le long de la route, je priais du Seigneur et de me rentrer à Douy, Je rentre à Douy et je suis infernale. Je mets ma machine à laver. Je vais chercher des pommes de terre. J'ai mis à cuire. Je vais chercher un bouquet parce qu'une copine s'amenait. Quand le voisin au bout du jardin, il a dit à sa femme, heureusement que je sais que Suzanne ne boit pas, il faut voir comment elle marche. Puis comment elle est. Je me rendais compte de rien du tout, du tout. Ce n'est pas la peine d'avoir soigné les malades pendant 33 ans. Hein. Alors elle m'a emmenée chez sa fille. Elle me dit, tu couches pas là, je t'emmène. On n'a même pas appelé le médecin le soir, rien. Et puis le lendemain, elles n'ont pas dormi de la nuit, elles se sont dit, elle va mourir. Ils ont cherché l'adresse de ma fille pour téléphoner. Et ma fille était gardien à Tournant, dans une propriété, c'était un chirurgien qui avait sa clinique là-bas. Alors, ma fille dit à Ginette, tu me passes maman. Et puis alors, ouin, voilà comment je parlais. Alors, elle dit, il faut me l'expédier. Alors, j'étais là-bas, et puis tout le monde s'est mis en quête de prier pour moi. Et alors, j'étais 8 jours à la clinique, et puis 2 mois après, en convalescence chez ma fille. Et ma fille avait peur que le cérébral était atteint. Elle me dit, tu vas me réciter la table de 7. C'est bien facile, la plus facile, vous voyez. Et bien, effectivement, de ce côté-là, ça avait marché. Et puis alors, bon, ça, le Seigneur m'a aidée, puis je me suis mis à marcher et tout. Et puis, par contre, j'ai arrêté la conduite parce que, quand même, il me reste une faiblesse dans la jambe. Et puis à la main, j'ai plus la force que j'avais avant, mais je m'en sers, Dieu merci, je fais mon jardin, je fais tout ça. Et je ne conduis plus, parce que aux urgences, j'ai trop vu des gens qui ne pouvaient plus conduire, qui faisaient des familles, alors j'ai dit, moi j'arrête, je ne vais pas faire ça. Et alors, par la grâce de Dieu, me voilà là. Et puis alors, là, on a fait l'expérience de mon petit-fils, qui a 34 ans, qui a eu un cancer des testicules, il est opéré au mois d'octobre, il a eu 3 mois de chimio, et il est guéri, il a repris son boulot, gloire à Dieu. Quand on se confie à lui, évidemment, au départ, ça semble bizarre, parce que quand on n'a pas connu, mais il suffit d'ouvrir sa bouche, de lui parler comme un père ou une mère, et puis le Seigneur entend et répond. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen.
Merci bien, Suzanne. Merci, Suzanne. C'est bien. Je vais quand même pas la laisser partir comme ça. Hein. On va faire encore un chant et puis après on laisse la place à Raphaël. Et ce soir, j'ai l'immense joie, merci les musiciens aussi. Ce soir, j'ai l'immense joie de vous présenter à nouveau mon frère Raphaël Duval, prédicateur gitan de la mission évangélique Zigan. Il va vous apporter la parole de Dieu ce soir. Ça fait 41 ans et quelques jours qu'il est venu en Suisse dans mon pays et qu'il a prêché l'évangile et que j'ai enfin compris qui était Jésus et pourquoi il était mort sur la croix. J'y comprenais rien de rien avant.
La mélodie, des fois, si je pas en route, je reprends.
Voilà. Raphaël, je suis très heureux que tu sois avec nous. Et je suis très heureux aussi que mes frères et sœurs qui sont sur Internet puissent t'entendre. Nous, on te voit, on t'a en chair et en os. Mais je suis content qu'ils puissent entendre ta voix. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va leur parler au travers de toi ce soir. Que Dieu te bénisse. Je donne le micro pour 3-4 heures, ça va?
Oui, deux heures et demie.
Merci Raphaël.
Voilà mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur. Ce soir c'est une prise de contact et c'est une réunion un peu spéciale sur les témoignages. C'est vrai, comme dit le frère, il y a 55 ans que je fais des réunions et j'aurais jamais cru qu'un gitan aurait parcouru l'étranger partout, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, l'Écosse, pour prêcher l'Évangile. Pour la première fois que j'ai été à La Réunion, c'était à Paris. J'avais préparé ma voiture pour aller dans une boîte de nuit. Parce que j'étais croyant, le peuple gitan a toujours été croyant. D'ailleurs, en Bretagne, sur tous les croisées de route, il y a une chapelle. Et là, ça présente le Christ dans une petite chapelle. Et le peuple gitan a toujours été croyant, mais seulement on a été conduit dans l'erreur. Comme il y en a beaucoup dans le monde qui sont conduits dans l'erreur. Quand vous leur parlez du Christ, ils vous parlent de la religion. Mais quand je dis la religion ne sauve pas. Et là, quand je passais, par exemple, devant une petite chapelle, alors je regardais si personne ne me regardait. Pendant mon commerce, je prenais de l'argent et je la mettais dans la petite chapelle. Et je disais maintenant, ben merci Seigneur, je peux faire ce que je veux. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui disent, ah ben tiens, maintenant j'ai donné mon offrande, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non. Et je vais vous dire l'expérience. J'avais préparé ma voiture pour aller dans une boîte de nuit et en passant à Saint-Germain-des-Prés, j'ai vu une réunion qui était préparée pour les gitans. Alors, comme je connaissais pas mal de gitans et qu'ils me connaissaient tous, je suis arrêté avec ma voiture et puis je leur ai parlé. Ils me disent, ce soir, il y a une réunion. J'ai une réunion. Quoi ? Il dit, viens, il dit, tu vas voir ce que c'est beau. Et puis moi, pour aller dans Montmartre, Clichy, Barbès, Pigalle, les boîtes de nuit, ça commence pas avant 10h30, 11h. Ah ben je dis, tiens, je vais perdre deux heures, mais je vais aller à La Réunion pour voir. Et quand je suis rentré dans La Réunion, j'ai vu un homme qui prêchait l'évangile et un gitan. Et vous savez, il ne parlait pas très bien, il n'a pas eu une grande prédication, mais il a parlé du Seigneur, il a parlé de l'enfer. Il a dit, celui qui ne croit pas et qui n'est pas baptisé, il sera réservé pour l'enfer. Et il a demandé dans l'auditoire, qui veut donner son cœur à Dieu? Vous savez, je n'ai jamais été honteux. Mais là, dans le fond de la salle, j'ai levé ma main. Mais je peux vous dire, par la même porte où je suis entré, et quand je suis sorti, je n'étais plus le même homme. Le Seigneur avait visité ma vie. Il m'a changé, instantanément. Moi qui rentrais à 3h, 4h, 5h du matin, ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-là? Il était à peu près 10h30. Mais j'ai dit, ma femme, j'ai trouvé le Seigneur. Elle me dit, il est devenu fou. Il est fou complètement. J'ai dit, non, ma femme, j'ai trouvé le Seigneur, je te dis. Vous savez, il ne faut pas longtemps pour trouver le Seigneur. On le trouve dans une seconde. Mais je voudrais donner le témoignage, je vous dis, c'est une soirée spéciale. Vous avez entendu mon frère Gitan, j'entends, je l'appelle Gitan parce qu'il est comme nous maintenant. Hein, il n'est pas plus que moi je ne suis pas plus que lui. Et avant d'aller en Suisse, je priais le Seigneur et je disais, Seigneur, je voudrais bien aller en Suisse. Mais je voudrais que ma femme me le dise. Et j'ai attendu 5 mois. Et un jour, on était en train de manger, puis elle me dit, Raphaël, on n'irait pas en Suisse. J'ai compris. J'ai dit, c'est là. Le Seigneur a parlé, il a répondu. Alors, comme j'étais en Suisse, la première chose que j'ai fait, j'ai été trouver des pasteurs, des serviteurs de Dieu, Ils m'ont dit non, ils disent ici, on est privilégiés, on a tous les plus grands prédicateurs, Tommy Hicks, Billy Graham, William Branham, ils ont tous passé là. Alors, dis, en voulant dire, c'est pas un petit gitan qui va me dire ici. Et je me rappelle, j'étais à l'embarcadère à Lausanne, et sur ma caravane, c'est marqué Mission Zigane. Et j'étais en train de préparer, j'avais loué la salle du cinéma, la salle de la Réformation, je crois. Hein. La maison du peuple. Et vous savez, tout seul, c'est dur. Alors, je dis, comment faire ? Pas de musicien, j'ai rien. Mais je dis, tant pis. J'ai fait faire des prospectus et puis j'ai fait commencer la première réunion. Mais avant de commencer la première réunion, alors les pasteurs m'ont dit non. Ils ont dit, nous, on est privilégiés ici, on a tous les plus grands serviteurs. Alors, ce n'est pas des gitans comme vous qui vont venir nous prêcher l'évangile. J'ai rien dit. Bon, j'ai écouté. Si moi, maintenant, je suis libre, maintenant, je loue la salle et je prêche l'évangile. Et là, quelques temps après, j'étais dans ma caravane en train de préparer une prédication. Et Michel Jantan, il est passé. Il avait un petit poste. Et il y a un homme qui est venu, il me dit, qu'est-ce que c'est, mission évangélique de Zigane? Mais je dis, voilà. Il dit, pourquoi que vous venez en Suisse? Ben, je dis, parce que le Seigneur m'a montré que je devais venir en Suisse, qu'il y avait des gens qui avaient besoin, des jeunes, de se convertir, d'accepter le Seigneur. Ah bon? Ben, il dit, je peux vous interviewer, il dit, parce que je travaille à Radio ce temps. Alors, il m'a fait monter à l'enregistrement, et là, j'ai mis un disque, et j'ai parlé à la radio, Radio Lausanne, Radio ce temps, je crois, et partout dans toute la Suisse. Et lui, il avait un petit poste. Il a écouté ça. Il dit, tu te rends pas compte? Il dit, un gitan qui vient en Suisse pour prêcher l'évangile, hein, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et la première réunion que j'ai commencé, il a monté chez moi dans ma caravane. Puis je le regarde et je dis, Alléluia! Alors il me regarde et il dit, Alléluia, Alléluia, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il était suffoqué, j'ai dit, t'es chrétien toi? Ben il dit, je sais. Oui, non, il ne savait plus ce qu'il disait. Ah bon? Mais j'y viens ce soir. J'ai la réunion à la place du cinéma, comme ça, et tu vas entendre l'évangile. Et il est rentré à la réunion, il y avait plein de monde. La salle était pleine. Et puis lui, il était assis au dernier bout là-bas sur une table. Et j'ai commencé à monter sur l'estrade et prêcher l'évangile. Et pendant que je prêchais, le Seigneur m'a montré une vision. Je dis, toi là-bas, toi qui es assis sur la table là-bas, toi tu es comme ça, tu travailles comme ça et comme ça et comme ça. Et le Seigneur s'intéresse à toi et il veut te sauver. Et le soir même, il a accepté le Seigneur. C'est pour vous dire, les plans de Dieu, on ne les connaît pas, on cherche à comprendre. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il fait. Il a bien fait parler à Nanès. Alors, il peut bien faire parler à un gitan. C'est vrai. Vous voyez, c'est pour vous dire. Et vous savez, chez nous, les gitans ne compliquent pas la vie. Vous savez, je ne suis pas un homme qui a une grande expérience de prédication. Je n'ai jamais été à l'école. Et maintenant, je lis un petit peu la Bible. J'ai appris à lire tout seul sur la Bible. Vous me faites lire un verset, par exemple, un papier. Une réclame, n'importe quoi, ma femme me dit, mais comment ça, tu voudrais pas me lire ça, là? Je dis, je sais pas, je comprends pas. Et la Bible, je la lis. Il y a des gens qui disent, mais c'est pas possible, tu peux pas lire la Bible, tu ne sais pas lire. Ben, je lis la Bible. Vous voyez, c'est pour vous dire, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Alors, je vous dis, ce soir, c'est une soirée spéciale, je voudrais que ma femme témoigne. Vous voulez l'entendre?
Ben, ben, gloire à Dieu. Je suis contente de voir tous mes frères et sœurs. Je les aime dans mon cœur. Il nous a donné une famille, le Seigneur. La famille de Dieu est grande. Gloire à Dieu. Ben, je vais vous dire un témoignage qui nous est arrivé vers nous, les Tziganes. À Paris, il y avait plusieurs... Les salles ont fermé, et puis ça fait qu'ils ont monté des toiles de tentes, et ils ont fait des missions un peu à droite, à gauche. Et là, il y avait un chapiteau qui était monté, puis tout le monde écoutait la parole de Dieu. Il y avait un petit homme, porté pas caduit, tout simple, un petit noir, pas grand, un petit peu plus grand que moi. Mais il était habité par la présence de Dieu, il avait Dieu dans son cœur, et un homme puissant, formidable. Et là, tout le monde écoutait la parole de Dieu. Puis d'un seul coup, tout le monde s'est mis à crier. C'était des hurlements. Il y avait des gens qui étaient dehors, qui étaient cachés avec une petite auto, une petite voiture. Oui. Et ça fait que il y a 3 enfants qui ont disparu. deux petites filles et un petit garçon. Alors c'était des hurlements, les parents. Alors tout le monde cherchait, tout le monde. Mais alors il y avait des témoignages qui leur dit, ah ben on les a vus partir avec des, comme ça, des gens, une grande dame et puis il y avait un grand monsieur. Alors c'était un enlèvement. Et le frère, il a dit, arrêtez de crier, arrêtez, Dieu me parle. Mais c'est réel ça que je vous dis là. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Il n'y a pas tellement longtemps que c'est arrivé. Et ça fait qu'il a dit, taisez-vous, Dieu me parle. Le Seigneur y a parlé, mais il n'a rien dit lui. Alors il écoutait, il rouvrait ses grands yeux, il écoutait la parole, il écoutait Dieu parler. Il a dit, va sur l'autoroute. Il y a 4 autos qui vont passer, la 5e, ça sera un petit camion rouge, je crois. Oui, je me rappelle plus bien de la couleur. Et puis celui-là, ça sera celui-là, tu l'arrêteras, tu te mettras devant, je te garderai. Alors il dit, arrêtez, on va vous les trouver, vos enfants. Il a été sur l'autoroute, mais il avait averti la police. Alors ça fait que la police avait caché un petit peu plus loin. Et lui, il s'amuse au milieu de la route. Il a arrêté le petit camion, le 7e. Il a arrêté le camion, il est monté au derrière. Je ne sais pas comment il a fait, je ne veux pas vous mentir devant Dieu, je ne sais pas comment il a fait pour rentrer. Et le monsieur qui conduisait, c'était un grand monsieur, C'était à peu près David avec le géant Goliath. Il était tout petit, lui, le petit serviteur, là. Il a voulu l'interpeller, il a voulu se battre avec lui. Alors le petit homme, le serviteur de Dieu, il l'a pris, là, ici, là, et il l'a levé. Mais une force surnaturelle. Dieu est avec lui, il avait la force dans le bras. Il l'a soulevé comme ça. Et puis, il a fait face aux 3 personnes. Ils ont tellement eu peur de lui qu'ils voyaient qu'il avait que le Seigneur avec lui. Qu'il avait le Seigneur, qu'il avait la présence de Dieu avec lui. Puis une force surnaturelle. Comme Dieu fait les choses, il les fait bien. Hein. Qui peut lutter contre Dieu? On est trop petit, il est trop grand lui. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il a vu le besoin qu'il y avait pour les gosses. Et ça fait qu'il a pris les gosses, il les a sortis, puis la police a intervenu là. Ils ont parlé, la police, ils les ont laissés partir. Ils les avaient pris, on l'a su par la suite, qu'ils voulaient faire du traficage d'organes. Ça fait que les gosses sont rentrés chez eux, tout ça bien passé, le Seigneur les a gardés. S'ils ne parlent pas à cet homme, ses enfants seraient morts. Le Seigneur, il a pourvu pour ses enfants. On vivait un siècle vraiment diabolique, Seigneur, avec tout ce qui se passe. Ça va mal dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, on a une espérance que les autres n'ont pas. On a fait la paix avec le Seigneur. On sait que le Seigneur nous garde. On sait que le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Moi, j'aurais beaucoup de choses à dire. C'est vrai que mon mari vivait dans le monde. Il rentrait à 5 heures du matin. Je n'avais pas compris, moi. Un jour, j'en avais tellement marre qu'il rentrait à 6 heures. J'attendais, j'étais avec mes petits-enfants. J'ai voulu me suicider. Je m'ai ouvert les artères. Mais Dieu n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis que je meure. J'ai trouvé le Seigneur, j'étais toute jeune. J'ai des enfants qui ne sont pas bien convertis, malheureusement. Ce n'est pas tout le monde qui se tourne vers Dieu. Pourtant, c'est le Dieu vivant et vrai. Et cette expérience que nous, on a fait, moi et Raphaël, on a travaillé pour Dieu pendant des années. Maintenant, on est âgé. Je vais avoir 79 ans pour le mois de juin, le 7 juin. Je suis âgé. 79 ans. J'ai un fils qui a 58 ans. Il est vieux, mon plus vieux. Et puis mon mari va avoir 80 ans bientôt. On est des vieillards, mais on travaille pour le Seigneur. C'est vrai, on travaille encore pour Dieu. Il y a des baptêmes du Saint-Esprit, il y a des gens qui changent leur vie, qui viennent vers nous, des sédentaires. Il y en a plein qui viennent, hein, Raphaël. Hein? On travaille encore. Malgré qu'on a atteint dans notre corps, on n'est pas épargné des épreuves de la vie. Mais on a une espérance avec le Seigneur. On sait que le Seigneur va venir bientôt avec tous les événements qui se passent. Ça va mal dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, on va lever notre tête. La délivrance approche bientôt. Le Seigneur va venir nous chercher. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis un petit peu fatiguée. Et que le Seigneur vous bénisse à tous. Merci. C'est une chose que je vous aime.
Gloire à Dieu. Non, papa, pas de musique.
Dimanche, nous chantons un chant.
Voilà, vous avez entendu ce petit témoignage. Il y aurait beaucoup de choses à dire, vous savez, je vais vous dire. Maintenant, je vais vous dire, vous avez entendu ces témoignages, mais s'il faudrait vous dire des témoignages comment le Seigneur opère, vous savez, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Mais lui, il connaît toutes choses. Un jour, je me trouvais à l'église de Pantin avec ma caravane. C'est pour vous dire que Dieu permet que tout le monde, le monde entier entende l'évangile. Et j'étais arrêté avec ma caravane, j'attendais pour savoir des nouvelles, donc mes amis étaient arrêtés dans une porte de Paris. Deux agents sont venus. Alors certainement qu'ils avaient trinqué un peu plus que d'habitude. Alors, il me dit, il faut démarrer. Ben, je dis, monsieur, je suis pas là pour rester, vous voyez, je m'en vais, je cherche de la famille. Il dit, quoi, vous faites le récalcitrant? Alors il me prend devant, là, puis il me bouscule, il est dans la voiture, comme ça. Puis je regarde, moi je rigole, j'ai écouté, monsieur. J'ai dit, si ça arrêtait avant, vous ne l'auriez pas fait, croyez-moi. Ah, il dit, puisque vous êtes le récalcitrant, allez, on vous amène au poste. Alors, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amené au poste. Et puis là, j'ai parlé de Dieu, j'ai dit, voyez, maintenant je suis prédicateur, et puis Dieu ne veut pas que vous fassiez ça. Parlez-moi pas de Dieu, il dit surtout, hein. Ah bon? Alors, ils m'ont amené au poste, et là, dans le poste, ils me font asseoir, ils me disent, vite tes poches. Mais je vide mes poches et mes dents. Dans ma poche, devant, j'avais un petit livre, un petit Nouveau Testament. Puis il y avait une quinzaine d'agents là-dedans qui étaient en train de manger leur casse-croûte. Et puis sur le petit livre, là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Et je dis ça, monsieur, vous le voyez, c'est la parole de Dieu. Ah, il dit, parle-moi pas de ça, hein. Et je dis, c'est vous qui me demandez, je suis bien obligé de vous répondre. Mais je dis, puisque c'est ça, vous allez me ramasser pour du bon. Mais je dis, maintenant, je prêche l'évangile dans le poste. Alors j'ai commencé à prêcher, les agents, ils étaient là, regardés de tous les côtés. Et le commissaire, il a attendu ça, il a descendu, il m'avait saisi ma carte grise. Le commissaire descend, il dit, je parlais de Dieu, il dit, donnez-y sa carte grise qu'on voit tout de suite qu'on ne voit plus. Parce que je leur ai parlé de Dieu. Eh bien, j'ai dit, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. J'ai dit, maintenant, vous n'êtes pas ignorant, vous avez entendu parler du Seigneur de la part d'un gitan. Alors, voyez, c'est pour vous dire, il faut témoigner, il faut travailler pour Dieu. Parce que vous savez, Dieu nous a préparé une place dans le ciel. Et vous savez ce qu'il a dit pour tous les croyants? Il a dit, je m'en vais, moi, au Père. Vous préparez une place, et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis. Alors ça vaut la peine d'être chrétien. Maintenant, je vais vous dire une petite histoire. Ça se passe sur le fleuve d'un continent jaune, là-bas, en Chine. Et il y a là un grand lac, et au bord de ce lac, là, il y a une petite maison. Et il y a un homme qui est là, c'est un chrétien. Il a sa petite barque, il a l'habitude de passer les passagers de l'autre côté du lac. Alors il y a un homme qui vient avec une grosse Mercedes, habillé et tout, et en costume et tout ce qui s'ensuit. Et il vient vers le chrétien et il dit, monsieur, pouvez-vous me passer de l'autre côté de l'étang, de la barque? Il dit, oui, montez dans la barque. Alors il monte dans la barque et pendant, il va partir sur le fleuve. Et pendant qu'il ramait, cet homme riche pose quelques questions à ce chrétien qui était simple. Il dit, vous connaissez la géographie? Non, je ne connais pas la géographie. Vous connaissez l'histoire de France? Non, je ne connais pas l'histoire de France. Ah bon? Mais vous ne connaissez rien de la vie, mon ami. C'est pas possible. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Il y a des gens comme ça. Et pendant que le chrétien ramait toujours, il aperçoit au loin un petit nuage. Il dit, voyez, monsieur, le petit nuage que vous voyez là-bas. Ben, ça m'annonce une ouragan que la barque peut être renversée d'un moment à l'autre. Et le chrétien n'avait pas fini la parole. Que l'ouragan était venu sur le fleuve et la barque a été ramassée. Mais avant, il dit, le chrétien, savez-vous nager? Alors l'homme le regarde, il dit, non, je ne sais pas nager. Aussitôt qu'il avait dit cette parole, l'ouragan a renversé la barque. Lui qui connaissait l'histoire de France, connaissait la géographie, la seule chose qui manquait, c'est qu'il ne savait pas nager. Il est resté au fond du lac. Le chrétien qui connaissait Dieu et qui savait nager, il a pu gagner la rive. Il a pu être sauvé. Il en sera de même, mes amis. Il en sera de même, parce que la Bible dit il a fixé un jour où il jugera le monde. Et chacun de nous rendra compte pour lui-même. Alors ça vaut la peine d'être chrétien, de pouvoir dire, oui, je suis enfant de Dieu. Vous savez, c'est tellement dur. Vous savez, si vous regardez la religion dans le monde, il y en a 1200. Laquelle est bonne? Hein? Laquelle est bonne? Dites-moi-le. La seule religion, c'est Dieu. L'Évangile. La Bible. Telle qu'elle est écrite, il faut l'accepter telle qu'elle est écrite. C'est pour ça, Dieu fait exception de personne. Nous sommes des gitans, c'est vrai, repoussés des fois de tout le monde. Mais Dieu nous a acceptés. Hein? Par exemple, comme nous voyageons avec nos caravanes, on arrive sur des places et on voit des écriteaux interdits aux nomades et aux forains de stationner. Mais il y en a un qui a pensé à nous. Il a dit, Venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, mes chers amis, je vous dis ça, la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue. Croyez-moi, celui qui n'a pas Dieu, il peut avoir la religion, ce n'est pas la religion qui sauve. Vous savez, dans le monde, la religion, est-ce que Jésus a demandé, par exemple, à tous les disciples, quelle religion tu as, toi ? Les disciples ne savaient pas quoi répondre. Moi, je suis protestant. Moi, je suis seul. Non. Il a dit, nous avons Christ dans notre cœur. Et c'est la plus belle des choses. Voilà mon histoire, à quoi que ça consume, et que je voulais vous dire. La seule chose qui manquait, cet homme qui connaissait tout le monde, l'histoire, du tout. Une chose lui manquait, il ne savait pas nager. Alors, vous, ça peut être pareil ce soir. Nous ne sommes pas là pour juger ni discuter d'une religion. Je ne suis pas un discuteur de religion. Mais je souhaite, mes amis, s'il y en a qui ne sont pas chrétiens, donnez-vous au Seigneur. Parce que le lendemain ne vous appartient pas. Un jour, je suis rentré chez moi, voyez, et j'ai tombé, j'étais mort. Vous voyez ce que vous voyez devant vous, là ? C'est un mort ressuscité, j'étais mort. Vous voyez ? Et j'ai tombé mort au milieu de ma caravane. La seule chose que j'ai eue, je m'ai réveillé et j'ai regardé à mes enfants. J'ai dit, mes enfants, pour moi, la mort m'inquiète peu, mon âme est sauvée. Mais vous, quand vous allez mourir, où c'est que vous allez passer l'éternité ? Il y a deux endroits où passer l'éternité, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer qu'on appelle, éloigné de Dieu. Et il y a cet endroit qu'on appelle le ciel, où la mort n'existera plus, la souffrance, la maladie n'existera plus. Ça sera la paix, la félicité avec Dieu. Oh, combien je voudrais qu'il y en a ce soir qui ne sont pas encore au Seigneur. Vous n'attendez pas un beau discours, vous savez, je ne sais pas discuter. Je ne sais pas lire ni écrire, j'ai du mal à signer mon nom. Mais je sais qu'une chose, je ne cabosse pas l'évangile, parce que c'est la plus belle des choses. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, ne dites pas que vous viendrez demain. Demain ne peut venir jamais pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, c'est le jour sous le linge, c'est le jour de grâce. Dieu te fait grâce parce que tu entends sa parole. Mais c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Alors, je vous donne ces quelques paroles de la part du Seigneur. Acceptez-le. C'est la plus belle des choses. Je voudrais vous dire une petite histoire. Vous aimez les histoires ? Ça se passe pendant les guerres. Il y a 17 soldats dans une compagnie. Et là, comme c'est la guerre, ils ont chacun un fusil. Ils sont dans une tranchée. Et comme c'est la guerre, ils se battent. Et voici qu'un avion passe et elle laisse tomber une obus. Et comme l'obus allait éclater dans la tranchée, la fumée était dissipée, il y avait un soldat qui était blessé à mort, en train de mourir, il perdait tout son sang. Alors, il y a un copain à lui, il demande, il dit, connais-tu le chemin du ciel, toi ? L'autre, il dit non. Alors, ils se demandent les uns aux autres. Ils avaient tous une religion. Oh, les 16, parce qu'il y a 17 dans une compagnie. Il dit, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, un soldat, un ami. Il demande s'il y a quelqu'un qui connaît le chemin du ciel. Il dit, non, je ne le connais pas, moi. Ah bon ? Et le dernier soldat, on lui demande, il dit, il y a un soldat qui est en train de mourir. Il a demandé s'il y a quelqu'un qui connaît le chemin du ciel. Alors le soldat, il sort un petit livre de sa poche et il dit, vous lui ferez lire ce verset. S'il a la force, qu'il réunit ses forces et qu'il lit ce verset. Alors on passe le petit livre les uns aux autres et au mourant qui est en train de mourir, en train de perdre son sang, il dit, si tu peux lire ce passage, lis-le. Et il commence à lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Et des larmes ont coulé de ses yeux. Et ce soldat qui était en train de mourir, avant de mourir, il avait trouvé le chemin du ciel. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le chemin du ciel. C'est à la portée de vous tous. Dieu ne regarde pas dans votre poche si vous avez de quoi payer votre entrée. Les affaires du ciel ne s'ajoutent pas avec de l'or ni de l'argent. Mais aujourd'hui, comme il y a un décès dans une famille, c'est première classe, deuxième classe, troisième classe. Et si vous n'avez pas d'argent, vous mettez de côté. Vous voyez, c'est pour vous dire ce que c'est que la religion, c'est ça, mes amis. Je ne veux pas vous conduire en erreur, mais je suis là pour vous annoncer la vérité. Alors, je n'irai pas plus loin. Vous avez entendu le témoignage, les chants. Mais ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Dieu, oh, Dieu ne demande pas de quelle famille vous êtes, à qui vous appartenez, mais il vous demande. Donnez votre cœur à Dieu. On va prier le Seigneur pendant quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Tu as permis, Seigneur, que nous venions pour rendre encore témoignage. Je te demande pour la gloire de ton nom, Seigneur. S'il y a quelqu'un dans cet auditoire qui n'a pas fait l'expérience avec toi, alors visite ces personnes, Seigneur. Je te le demande pour la gloire de ton nom. Moi, je ne les connais pas tous, mais toi, tu les connais, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour sauver. Tu n'es pas venu pour perdre, Seigneur. Oh, Seigneur, étends tes bonnes mains. S'il y aurait quelqu'un ce soir, que les têtes restent baissées, qui veut donner son cœur à Dieu, levez simplement la main, je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Dieu, qui n'a jamais fait d'expérience avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Dieu? Avant que nous terminions cet appel, il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Dieu. Alors faites-le. N'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous cherche. Parce que nous avons eu une petite conversation aujourd'hui. Et le Seigneur vous aime. Et merci. S'il y aurait une personne qui veut donner son cœur à Dieu, levez la main et nous prierons pour vous. Ne refusez pas l'appel de Dieu. Comme le frère qui a dit, merci. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. C'est le plus beau choix que vous avez fait de donner votre cœur à Dieu. On ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Mais vous savez, on est là bien souvent des fois, puis on meurt d'une crise cardiaque, et on regrette, on dit, j'ai pas fait la paix avec Dieu. Alors n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce qu'il y a une troisième personne pour le Seigneur? Levez la main, nous prierons pour vous. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour les deux mains qui sont données à toi. Seigneur, tu les touches par ton esprit. Tu les conduis, Seigneur. Je te le demande pour la gloire de ton nom. Tu nous dis qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, sois béni et sois loué. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait en effet. Merci, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et même l'été. Puis alors là-bas, souvent, vous savez, Marseille, c'est une ville débauchée. Et il y a souvent des gitans qui vont se promener le soir et qui me demandent la réunion. Et comme la Renault passe, il y en a beaucoup qui ont été embarqués dans la Renault. Mais le commissaire de Marseille, c'est un chrétien. Alors pour les reconnaître, des fois, ils sont tous dans. Et puis ici, ça, un vêtement blanc. Alors celui qui se tourne, il reconnaît. Ah, ça, c'est un chrétien. Prenez la Renault, ramenez-le.
Garde le micro, on va chanter ensemble. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est le premier chant que j'ai entendu là-bas à cette fameuse réunion à la Maison du Peuple. Un vêtement blanc. On y va? Ça y est, on est bon.
Le dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux vers les cieux.